Renaud Alberni, Marguerite d'Andurin, la comtesse de Palmyre. Pure routine. Le commissaire Courtan ne sait fichtrement pas pourquoi, mais il est convaincu que l'enquête concernant la comtesse Marguerite d'Andurin ne sera qu'une pure et simple formalité. Le genre d'affaires que l'on résout en un gentil petit interrogatoire, avec preuve confondante à la clé. Ne reste plus qu'à livrer le paquet bien ficelé et la cliente bien menottée à Sa Majesté le juge d'instruction. Bon, de quoi donc suspecte-t-on Madame la Comtesse, née Jeanne Amélie Marguerite Clarisse ? D'avoir empoisonné son neveu, Raymond Clarisse d'Arlincourt ? Ah, il faut se méfier. Il se pourrait que ne se soit pas du gnangnan. Les histoires de poison, ce n'est jamais franc du collier. Le flingue, le couteau, ça vous signe un meurtre. Le poison, c'est plus sournois. C'est fait pour ne pas laisser de traces. Le commissaire a lu dans une étude quelconque que le poison serait une arme de femme. Sans faire le moindre commentaire à ce sujet, il imagine fort bien une baronne concocter un bouillon de 11 heures pour faire le ménage dans sa lignée. En quelque sorte, un crime de sang bleu. Du coup, Courtan se dit que, plus que routinière, son enquête sera un monument du classicisme, un véritable cas d'école dans le style des romans policiers anglais avec tasse de thé, mobilier de style, et chat endormi devant l'âtre d'une cheminée. Mensonge, faux semblant, toast mielleux et petits doigts en l'air seront les ingrédients de cette énigme que le commissaire Courtan, un as de la police judiciaire, va résoudre par la force de ses déductions. 1946 restera dans les annales de la première brigade criminelle, comme l'année où Courtan a réussi à coincer la baronne d'Andurin. Très bien, penchons-nous sur le dossier. L'an dernier, Raymond Cléris d'Andurin est décédé à l'hôpital Brousset de Paris en accusant sa tante de l'avoir empoisonné avec du chocolat. L'autopsie a confirmé que le garçon que les médecins croyaient atteint d'urémie a succombé à l'absorption d'un toxique. Le juge Goletti a ouvert une instruction. Maintenant, c'est à Courtan de jouer. Tout d'abord, collecter des informations sur la baronne. Interroger le fichier de la PJ. Il en sortira toujours quelque chose. Sifflotant, le commissaire se penche sur de vieux dossiers à peine jauni et aussitôt croule sous le poids du pedigree de Marguerite d'Andurin. En remontant les années, derrière la baronne, jusqu'à son berceau, cela donne. Un comportement pas très net durant l'occupation, mais des relations haut placées à la libération. Un passé plutôt flou avant la guerre au Proche-Orient. Une accusation de meurtre sur la personne de son second mari, un bédouin qu'elle aurait empoisonné à Djeddah. Un peu de prison, un zeste d'espionnage, un bon soupçon de trafic en tout genre. Sans oublier une conduite absolument scandaleuse, une kyrielle d'amant et un exorcisme en bonne et due forme reçu à l'âge de 8 ans. Bigre! Satanée bonne femme. Courtan ne veut pas médire, mais l'évêque de Bayonne, qui la délivra du malin, ne devait pas être un fameux exorciste. Manifestement, si démon il y avait, démon il y a encore. La baronne sent le soufre à plein nez. Au détour d'un rapport, le commissaire a lu qu'elle se présentait la réincarnation de Zénobie, la reine de Palmyre. Il ne manquait plus que ça. aventurière, croqueuse d'hommes, Marguerite d'Andurin est également une mystique frappadingue. En se demandant bien dans quel monde de cinglés il va fourrer ses gros croquenots, Courtan lève les yeux au ciel. Son regard tombe sur son chapeau mou, suspendu à la patère. Il s'en coiffe le crâne et, le nez froncé, se met en chasse. Dans un premier temps, il n'a pas à aller bien loin pour retrouver la trace de la baronne. La guerre est encore toute proche. La victoire remonte à l'an dernier. Il y a 2 ans, les Allemands occupaient encore Paris. Aujourd'hui, on trouve à la préfecture de vieux fonctionnaires zélés qui ont gardé une mémoire étonnamment claire de ces années sombres. La comtesse d'Andurin ? Vous pensez, si on la connaît, une sacrée bonne femme plutôt troublante. Proche des cocos en 40, on la retrouve maîtresse de Lafont en 42. Truand et collabo, Lafont est une ordure de la pire espèce. Du moins, était une ordure de la pire espèce. Avec Bonnie, un autre fieffé salopard, il a été exécuté en décembre 44. Il ne méritait même pas le prix des balles qui les ont expédiées en enfer. Marché noir, chasse aux juifs, aux résistants, escroquerie et tout le vade-mecum du crime, à tu et à toi, avec la Gestapo et tout ce qui portait une croix gammée. On a longtemps soupçonné la comtesse de mouiller dans toutes ces combines répugnantes. On n'a jamais rien pu prouver. Bonnie et Lafont étaient couverts par les Allemands. Obéissante, la police française ne pouvait s'empêcher de conserver un œil discret sur le milieu et les bas-fonds. Champagne, partout et cocaïne, Marguerite d'Andurin ne semble s'être refusée aucun plaisir. Pas même le plaisir de rompre à temps avec Lafont et consorts pour se retrouver dans la résistance fin 43, début 44. Pas une simple conversion de circonstances, non. Avec la comtesse, les choses ne sont pas si simples. Elle habite dans l'appartement d'Emmanuel d'Astier de la Vigerie, un proche de De Gaulle. Elle abrite des parachutistes anglais. On dit même qu'elle présente Lafont à un pont du Conseil national de la Résistance dans l'espoir de retourner le voyou et de s'en faire un allié contre les nazis. Une dernière histoire court au sujet de la comtesse. On prétend qu'elle aurait servi d'intermédiaire entre les Russes et les Allemands à un moment où Staline escomptait vendre les bijoux du tsar à Hitler. Grosso modo, voilà tout ce qu'il y a à signaler au sujet de Marguerite d'Andurin pour les 6 dernières années. Maintenant, si le commissaire veut en savoir plus, il peut toujours aller fouiner du côté du ministère des Affaires étrangères. La carrière de la comtesse au Moyen-Orient ne manque pas d'intérêt non plus. Touchant du doigt son chapeau, Courtan remercie du conseil. Il connaît son métier. C'est toujours la même routine. Deuxième partie. L'hôtel de la reine Zénobie à Palmyre est l'endroit idéal pour faire le point sur une longue enquête. Le commissaire Courtan s'évante avec son chapeau. Bien tranquillement assis, il se contente de laisser promener son regard sur les ruines de l'antique cité prises dans les sables du désert syrien. Sirotant une anisette bien fraîche, tandis que le soleil se couche comme à la parade par-dessus l'oasis et les palmiers, le policier saisit à cet instant la fascination qu'exerçait Palmyre sur la comtesse d'Andurin. La comtesse de Palmyre, comme on l'appelle, entre le Caire, Beyrouth, Damas et Djeddah. Il n'est pas désagréable de mener une enquête au Moyen-Orient. Flics levantins, bédouins et arabes sont de bons flics. Bonne mémoire, bonnes archives, bon sourire. Du thé vert, quelques dates et entre deux loukoums, vous apprenez tout ce que vous voulez savoir. » Flanqué de son premier mari, le comte d'Indurain, un noble et riche basque, Marguerite a débarqué au Caire aux alentours de 1925. Venue ouvrir un salon de beauté, elle se retrouve bientôt une des femmes les plus recherchées de la ville. On se l'arrache dans les réceptions et les dîners mondains. On ne jure plus que par elle. Comptabiliser le nombre de ses aventures extra-conjugales dépasse et de beaucoup la capacité des services de renseignement les mieux organisés. Par contre, il est un jeu d'enfant pour un policier faisant honorablement son travail d'intercepter les rumeurs faisant de la comtesse une espionne au service des sionistes ou des Syriens ou bien encore des Anglais. C'est à ce moment-là, en 1926, que la comtesse a préféré mettre les voiles en direction de la Syrie en s'embarquant avec un certain Jeff Sinclair, citoyen de sa gracieuse majesté britannique exerçant la dangereuse profession de chef des services secrets palestiniens. À présent, 20 ans plus tard, la situation politique de la région est pour le moins tendue. Les Anglais viennent de contraindre les Français à évacuer la Syrie. La même manœuvre est en cours au Liban. Poursuivre une enquête dans ce contexte demande un peu de doigté et beaucoup de patience. En s'obstinant un peu, on finit toujours par apprendre que le deuxième bureau, le service de contre-espionnage, s'intéresse depuis longtemps à Marguerite. Retournée par les Français dès 1928, l'année de son divorce d'avec le comte, elle aurait par la suite dérobé la liste des agents anglais à son beau Jeff Sinclair. Le pauvre ne s'en est pas remis. Quelques jours plus tard, il se tirait une balle dans la bouche. Gérant de l'hôtel de la reine Zénobie, désormais comtesse de Palmyre, Marguerite se met alors en quête d'aller à la Mecque. La suite, courtant, l'apprend à Jeddah, de la bouche d'un vénérable chef de la police. Le brave homme n'est pas prêt d'oublier la comtesse. Il lui doit ses cheveux blancs. Il l'a connue sous l'identité de Zénab, épouse de Soliman Abdel Aziz, musulmane fraîchement convertie, venue accompagner son mari dans son pèlerinage à la Mecque. Quand elle a débarqué à Jeddah, en avril 1933, le scandale a pris pied en Arabie Saoudite, le pays du sultan Abdelaziz Ibn Abderrahman El Saoud, le roi aux 14 épouses officielles, 200 concubines, 44 fils légitimes et 100 naturels. La comtesse de Palmyre était trop fraîchement convertie pour être admise au pèlerinage. Seule une autorisation expresse du sultan, malheureusement absent, pouvait lui en donner l'autorisation. Il a fallu l'enfermer dans le harem du gouverneur de la ville, en attendant le retour d'Abdelaziz. Les troubles occasionnés par la soi-disant Zénab forment une longue litanie dont le récit prendrait 3 jours et 3 nuits. Il suffit de savoir au commissaire que Soliman Abdelaziz, son mari, est mort subitement en accusant sa femme de l'avoir empoisonné. Au moment de procéder à l'arrestation de la comtesse, elle se trouvait au lit avec son amant, le fils du consul de France. L'histoire que conte le Saoudien passionne furieusement Courtant. Du poison? Oui, déjà. De la strychnine, probablement achetée à Beyrouth, dans la pharmacie Gemayel, place des Canons. Assassinat, adultère, la comtesse aurait dû être lapidée. Tout autre qu'elle aurait été lapidée. Le consul français s'est démené. Il a été question de l'amitié franco-saoudienne. La diplomatie a trouvé une solution au problème. 100 livres d'or offerts de Soliman et Marguerite était libre. Libre, mais expulsée par le premier bateau. Libre d'aller se faire lapider ailleurs. C'est à Palmyre, où il sirote une dernière anisette, que le commissaire a retrouvé la trace de la comtesse. Palmyre, où elle tient salon, dans son hôtel de la reine Zénobie. Palmyre, où elle tient chambre à coucher, dans toute la garnison et sous les palmiers alentour. Palmyre, où son premier mari, le comte d'Indurin, vient la rejoindre. Palmyre, où ce pauvre comte, un homme aussi peu jaloux que possible, finit par être poignardé en pleine nuit. Il se pourrait que l'auteur du crime soit le frère de Soliman. Le premier mari, c'est possible. Le désert et les bédouins conservent jalousement leurs secrets. En tout cas, Courtan estime maintenant en savoir assez au sujet de la comtesse d'Indurin. On a un peu trop tendance à décéder de façon suspecte autour d'elle. Marguerite est exactement le genre de personne susceptible d'empoisonner son neveu pour régler un problème familial. Le commissaire soulève son chapeau en quittant Palmyre. Son couvre-chef est toujours vissé sur sa tête quand à Nice, le 23 décembre 1946, il passe les menottes autour des poignets de la comtesse de Palmyre. C'est toujours pareil quand on est flic. Vient un moment où vous êtes obligé d'arrêter l'aventure. Troisième partie. La liaison téléphonique avec le Maroc est difficile à obtenir. Avachi dans son fauteuil, les pieds croisés sur son bureau, suçotant un crayon, le commissaire Courtan patiente. Oui, c'est ça. Il demande Tanger. Très bien. Il attend. Le combiné de bakélite noir crachote d'horribles grésillements. Courtan grimace en rabattant son chapeau sur le nez. Quel temps peut-il bien faire à Tanger? Certainement plus beau qu'à Paris, par cette morne et glaciale journée de novembre. Le commissaire soupire. Ah, les palmiers! Ah, le sable chaud! Ah, les vers d'anisette! Puis, après de longues secondes de rêverie, ah, la barbe! Va-t-on enfin lui passer sa communication? Allô, allô! Rien, si ce n'est la ligne qui cliquette frénétiquement. Courtan est sur le point de raccrocher quand le timbre au perché d'une standardiste le stoppe net dans son geste. Vous avez demandé Tanger? Parlez. Allô, Tanger? Le commissaire entend l'écho de sa propre voix avant que ne lui parvienne le son étouffé d'un lointain, très lointain correspondant. Je voudrais parler à l'inspecteur Rouillère. Non, Rouillère. Courtan est obligé de répéter deux fois le nom avant de se faire comprendre. Puis, il lui faut attendre de nouveau. Toujours les mêmes grésillements, toujours les mêmes cliquetis. L'inspecteur Rouillère est chargé de l'enquête concernant la disparition de Marguerite d'Indurin à Tanger, il y a quelques jours très précisément, le dimanche 5 novembre 1948. Voilà bientôt 10 mois que, quant à lui, le commissaire a perdu de vue la baronne. C'était en janvier dernier. Elle venait de bénéficier d'un non-lieu dans l'affaire de l'empoisonnement de son neveu. Elle s'embarquait pour Tanger en compagnie de son fils Jacques, à bord d'un petit voilier de 12 mètres. Rouillère, j'écoute. Courtan sursaute. Du pouce, il redresse son chapeau et tout en retirant prestement ses pieds de dessus son bureau, il se présente. L'inspecteur le connaît. Paris lui a transmis copie du rapport d'enquête que le commissaire avait rédigé concernant la comtesse de Palmyre. C'est justement à propos de la comtesse que Courtan appelle. L'a-t-on retrouvée? Transportée par des kilomètres et des kilomètres de câbles électriques, le rire de Rouillère lui parvient avec un décalage désagréable. Non, on n'a pas retrouvé Marguerite d'Indurain. D'ailleurs, on n'est pas près de la retrouver. Par contre, l'inspecteur a mis son assassin sous les verrous. Du moins, son présumé assassin. Pendant un instant, le commissaire n'écoute plus son interlocuteur. Sa surprise n'est que de courte durée. Il se doutait bien que la comtesse d'Indurain ne mourrait pas de vieillesse. Qui l'a buté? La réponse de Rouillère parvient avec un temps de retard. Le suspect est un Allemand, un déserteur allemand du nom de Hans Abel, qui vit depuis quelques mois à Tanger sous l'identité de Renato Pancini, un honorable citoyen helvétique. Hans Abel était l'associé de Marguerite d'Indurain. Courtin interrompt l'inspecteur. Quel genre de business? Il faut quelques secondes pour que lui parviennent les explications de Rouillère. Comme le commissaire peut s'y attendre, la comtesse mouille, on devrait dire mouillée, dans des affaires plus ou moins louches. Elle projetait d'aller avec son voilier, le Jilan, acheter de l'or au Congo. Une gentille petite opération de contrebande, bien fructueuse. Dans le même temps, elle affirmait vouloir vendre son yacht. Enfin, elle voulait faire évader un officier français, un collabo, emprisonné à Tanger. Bref, dans tous les cas de figure, Hans Abel était intéressé financièrement. Tous deux se sont embarqués le dimanche 5 novembre au matin. Quelques heures plus tard, Hans Abel est revenu seul au domicile de la comtesse de la Casbah. Il a pris des liasses de dossiers, puis il a disparu. L'inspecteur vient de le retrouver à Casablanca. Courtin relance Rouillère. Et la comtesse? La comtesse, à en croire les déclarations du bonhomme, elle reposerait, par le fond, au large du cap Spartel. Le commissaire connaît-il le cap Spartel? Non, c'est dommage, c'est très joli. Seul un mince bras de mer sépare l'Afrique de l'Espagne. Hans Abel a balancé le corps de la comtesse à la flotte dans un drap lesté de cailloux. C'est pour cela que l'inspecteur pense qu'on n'est pas près de la retrouver. En attendant, Hans Abel, correctement cuisiné, continue à affirmer qu'il n'a pas tué Marguerite d'Indurain. Non, à en croire ce paisible personnage, il s'agirait d'un accident. La comtesse se serait pulvérisée le crâne en tombant sur le pont du voilier. Elle serait morte sur le coup. Et dans la panique, étant munie de faux papiers, notre déserteur se serait débarrassé de l'encombrant cadavre avec les moyens du bord. Tout porte à croire qu'Hans Abel ment. Quoi qu'il en soit, quelles qu'aient été les circonstances de la disparition de la comtesse, nul n'est étonné, à Tanger, par sa fin. 3 jours avant de passer de Via Trepas, elle a demandé à rencontrer Rouillère. Elle se sentait menacée, mais demeurait évasive, peu claire. Elle devait bien se douter qu'elle ne pourrait pas toujours se sortir indemne de ses aventures. Il était fatal que l'une d'entre elles finisse mal. Après un instant de silence, Rouillère interroge Courtin. Sans indiscrétion, pourquoi me questionnez-vous sur la comtesse de Palmyre? L'inspecteur murmure comme s'il parlait à lui-même. Par routine, par pure et simple routine. Puis il raccroche. Note. Hans Abel fut condamné à 20 ans de prison, mais le procès n'éclaircit pas complètement les nombreux mystères entourant et la mort et la vie de la comtesse de Palmyre. Trafic en tout genre, espionnage. Tanger, port franc, était alors une ville interlope où se croisaient beaucoup d'aventures et d'aventuriers. Que Marguerite d'Indurain vienne finir sa vie dans ce décor de roman n'a finalement rien d'étonnant. Née le 29 mai 1893, elle avait 55 ans quand elle est décédée. Son destin présente des ressemblances tant avec celui de Lady Stanhope, la châtelaine du Liban, qu'avec celui d'Isabelle Eberhardt. Fin de la nouvelle La Comtesse de Palmyre de Renaud Alberni.